Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mon christianisme était intellectuel et spirituel avant que je ne parte en Terre Sainte. Et j'ai l'impression d'avoir subi quelque chose de violent.
Subi
et violent. C'est-à-dire, j'ai rien demandé et il s'est passé quelque chose. Et puis, je finis par comprendre, enfin plutôt, ça se transforme, boum, ça glisse immédiatement. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une grâce. Que j'ai senti la présence d'un homme qui est mort il y a 2000 ans. Que je l'ai senti, mais senti avec mon nez.
C'est ça, la grâce.
Avec ma peau. Oui, c'est le corps. C'est le corps qui comprend la chose que l'esprit ne peut pas comprendre. Parce que c'est incompréhensible. Vous voyez ? C'est tout d'un coup le vécu du mystère.
Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact dans nos studios de Paris, encore une fois. Mon invité a vendu près de 25 millions de livres dans le monde. Déjà, ça annonce, 25 millions, c'est du lourd. Les plus écolos qui nous écoutent diront quand même, c'est aussi beaucoup de papier, ça fait une petite forêt. Il est écrivain, philosophe de formation, dramaturge, comédien à ses heures, réalisateur, propriétaire d'un théâtre. Et il a l'appétit, ou peut-être l'ambition dévorante d'un ogre. Son plus récent chantier, raconter l'histoire de l'humanité, une manière peut-être de parler de notre présent. Éric-Emmanuel Schmitt.
Oui. De toute façon, on n'échappe pas au présent.
On n'échappe jamais au présent. C'est d'ailleurs la seule scène où on peut jouer.
De toute façon, on n'échappe ni au présent ni au passé.
Vrai. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Est-ce que je peux me permettre de dire que ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver?
Oui, moi aussi.
C'est un bonheur. Dans ce genre de présentation, évidemment, il y a toujours un certain nombre de banalités ou de choses qui sont répétées. Est-ce que, à chaque fois que vous êtes victime de l'exercice, vous vous dites, il manque quelque chose d'essentiel qui n'est jamais dit.
Ah non, j'attends que ça passe.
Alors, j'ai fait court.
Pour qu'on discute.
Exactement, j'ai fait court. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui définit quelqu'un? Alors évidemment, pour le créateur, c'est apparemment ce que vous avez fait. Mais vous êtes beaucoup plus que ce qu'on lit ou ce qu'on voit au théâtre.
Oui, mais je crois que j'ai choisi la vie d'écrivain pour avoir 1000 vies. Et pas qu'une, parce que je savais qu'en écrivant, je deviendrais un homme, une femme, un enfant, un vieillard, je changerais de peau, je changerais de sexe.
On peut être fluide.
Oui, voilà, la fluidité absolue, mais c'est vrai. Et parce que je suis tellement curieux, j'ai tellement d'appétit des choses qu'une vie, c'était pas possible.
Quand je parlais de l'appétit ou de l'ambition de l'ogre, il y a quelque chose de ça, j'ai l'impression. Vous dévorez les choses.
C'est sûr. Ogre et gourmet, quand même.
Oui, tout à fait.
J'aime que les choses soient bonnes.
C'est préférable, d'ailleurs. Voilà. Alors, l'ogre, ce soir, a peut-être le cœur qui bat la chamade, parce qu'on est à quelques heures de la première de Bungalow 21, une pièce que vous avez écrite. Avez-vous encore des papillons dans le ventre?
Mais oui. C'est terrible. J'ai passé une très mauvaise nuit. À un moment, j'avais arrêté le théâtre à cause de ça. Ça me faisait trop peur d'avoir une rente. Non, c'est une appréhension. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'appréhende. C'est-à-dire, par exemple, le spectacle n'est pas attendu. C'est-à-dire que la location est mauvaise et les gens n'ont pas envie de ce spectacle. On s'inquiète. Ce soir et pour les jours qui viennent, je peux vous dire que les gens se précipitent dans le théâtre. Et ben, je m'inquiète. Je me dis, est-ce qu'on va être à la hauteur de l'attente? De toute façon, chez moi, le théâtre développe une véritable inquiétude parce que ça. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit d'une équipe. Moi, je peux me remettre de ce qui m'arrive, mais on emmène...
Vous êtes fiduciaire de ce qui va se passer un peu ce soir.
Ben, il y a une synergie, on a créé une synergie de désir autour de cette pièce, et donc on est tous embarqués, et on a envie que ça navigue bien.
Alors, est-ce qu'il y a des doutes derrière ça ou c'est essentiellement cette nervosité qui est normale parce qu'on veut justement que tout le monde soit bien servi par l'exercice? Et je me permets de citer quelque chose que vous avez rappelé à l'occasion. Je pense que c'est quand vous avez déposé votre première pièce. Quelqu'un a dit « ce garçon, ce jeune homme manque singulièrement d'inexpérience. » et je me suis
très joli compliment.
C'est une damnation en même temps.
Oui, mais parce que j'ai toujours pensé que le savoir-faire était important. Je suis un petit-fils d'artisan. Mon grand-père était joaillier sertisseur. Et donc, des fortunes lui passaient entre les mains, lui, il n'était pas riche. Hein. Mais parce qu'il réparait ou il créait des bijoux. Et l'idée du travail bien fait est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Donc, c'est vrai, quand j'ai commencé, j'avais déjà, entre guillemets, de la technique et du savoir-faire. Mais parce que j'ai mis à la poubelle tout ce qui manquait de ça. Et pour moi, c'est le minimum de savoir-faire. Non, la peur, c'est de ne pas être en adéquation. Je suis content de la pièce que j'ai écrite. Après, je me dis, est-ce qu'elle va intéresser les gens? Est-ce qu'elle va les provoquer des émotions? Est-ce qu'elle va les embarquer? Elle est là, la peur. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait ma part.
Cette question d'émotion me semble importante. C'est un des grands privilèges que vous avez, oui, comme dramaturge, comme écrivain, que de relayer des idées, de nous faire penser, mais aussi de nous bousculer par le ventre.
Oui.
Alors justement, quand on se fait dire, quand on est très jeune, il y a un manque d'inexpérience en vous, comme si vous aviez toute la science, toutes les expériences vécues, c'est impossible. Vous êtes plus à même aujourd'hui d'arnacher l'émotion parce que vous avez vécu, de nous la faire sentir?
Je ne sais pas. J'avance plus nu qu'avant. En disant peut-être, en me déshabillant de certaines préventions, mais ça, de toute façon, je crois que c'est dans un trajet d'homme. Je veux dire, on se simplifie, ou on ôte des masques. Donc j'avance.
Des masques, donc il n'y en avait plus d'un.
Oh, j'en ai toujours un paquet. Hein. Rassurez-vous.
Je suis pas terriblement inquiet, mais est-ce que comme le sculpteur qui enlève de la matière pour arriver.
Oui.
À son geste, est-ce que le dramaturge ou l'auteur enlève les masques pour arriver à sa vérité et la présenter?
Je me méfie de l'illusion de progresser que peuvent avoir les artistes, hein. Donc pour moi aussi. Parce que finalement, parfois, on a l'impression d'être bien meilleur qu'avant, et puis on découvre un truc qu'on a écrit, et on est presque en train de pleurer en se disant « mais c'était très bon, comment est-ce que je faisais ?» Parce que je n'avais pas conscience, autant qu'aujourd'hui, de la façon dont les choses se font. Non, l'émotion pour moi, c'est extrêmement important, et c'était parce que la vie de l'esprit n'est pas dissociée des émotions. La vie de l'esprit, c'est pas l'intellect. Moi, je suis un intellectuel de formation, mais j'ai toujours refusé d'être simplement un intellectuel. Mmh. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'esprit. Et donc, il y a le cœur, l'émotion, le sentiment, les sensations. Et c'est pour ça que mes modes d'expression sont des modes d'expression littéraires. Enfin, le théâtre, le roman, la nouvelle. Parce que je peux remettre la chair de la vie et donc toute la vie de l'esprit qui n'est pas que l'intellect.
Vous disiez tout à l'heure avoir eu ce grand privilège de pouvoir changer d'identité. Vous avez aussi choisi, comme un caméléon, de voler certaines identités célèbres ou de vous glisser dans,
oui,
leur peau. Il y a eu Freud, évidemment, Mozart avec qui vous avez dialogué, Hitler, c'est une autre affaire, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est toujours un peu suspect quand on ne fait que soulever son nom. Mais Hitler, avec qui vous avez passé du temps, faisant l'hypothèse qu'il aurait peut-être été quelqu'un d'autre s'il avait réussi dans son parcours d'artiste.
C'est un des moments les plus frappants de ma vie d'écrivain. Écrire La part de l'autre, ce roman sur Hitler, qui est maintenant vraiment un de mes romans les plus lus. C'est-à-dire me mettre dans la tête d'Hitler. Raconter la vie du vrai, qui rate l'Académie des Beaux-Arts en 1909 et qui devient un clochard, puis qui est réintégré à la vie sociale par la guerre, puis à l'issue de la guerre devient l'homme politique que l'on sait, avec les actions monstrueuses que l'on sait. Donc je raconte d'un côté la vie de celui-là, et de l'autre côté le même qui aurait réussi au ras des fesses. L'Académie des Beaux-Arts, et qui se développerait non pas sur le ressentiment, la haine et l'exclusion, mais sur l'épanouissement progressif de lui-même. Et ce faisant, je raconte aussi un autre XXe siècle, le XXe siècle sans Adolf Hitler dictateur, mais avec Adolf Hitler peintre, médiocre, mais beaucoup apprécié de la bourgeoisie juive. Et cette expérience a été quelque chose de profondément troublant, car je me rendais compte que, oui, je pouvais empathiquement me mettre à la place d'Hitler. Et j'amène le lecteur à le faire. Et c'est pour ça que les gens sont tellement troublés. Pourquoi ? Parce que le but, il était philosophique. Il était de dire, le monstre, c'est pas l'autre. Le monstre, c'est moi, si. Moi, si, comme Hitler, je pense que j'ai toujours raison. Moi, si, comme Hitler, je réfute la multiplicité des causes pour désigner une cause unique, un bouc émissaire, en l'occurrence le juif. On a tous en nous les mécanismes mentaux.
Part d'ombre.
Oui. Et puis les mécanismes mentaux archaïques. Vous savez, un enfant, quand il est petit, il se cogne à une chaise, il tape la chaise en disant « méchante la chaise ». Donc, on a tous ça en nous, et l'expérience troublante que je faisais, et que je fais faire ensuite au lecteur qui me lit, c'est de dire, Hitler, ce n'est pas l'autre absolu de vous, ce n'est pas un être différent, c'est vous-ci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monstre, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. On est chacun en disposition d'être un monstre. Et il faut donc le tenir dans sa cage.
Mais il est aujourd'hui beaucoup plus facile pour bien moins que ce qu'a fait Hitler, de démoniser l'autre et d'en faire l'ennemi.
Oui.
Sans jamais admettre, d'abord, qu'on pourrait être pour l'autre l'ennemi, et qu'on peut aussi basculer, qu'on est ambidextre de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose de tapis, mais on projette toujours ça sur les autres.
Toujours. Toujours. Non, non, mais c'est à ça que sert la littérature. C'est à retrouver la complexité des choses. Et de toute façon, les gens qui sont attirés par la littérature sont des gens qui ne se contentent pas d'explications simples et qui ne veulent pas des héros de bande dessinée qui sont bons ou méchants, mais qui veulent rentrer dans la complexité que tout homme est capable d'actes bons et d'actes méchants.
Or donc, Caméléon, parce que capable de vous glisser dans la peau de plusieurs grands personnages, au théâtre, ce soir, ça sera Yves Montand, Marilyn Monroe. Alors évidemment, on a tous notre Marilyn Monroe en tête. Il y a des personnages qui sont plus complexes à aborder que d'autres, ou par définition, puisque c'est de la création, vous avez la même licence chaque fois.
Quand ils sont complexes, j'entre facilement en eux. Ce qui est plus difficile, c'est quand ils ne sont pas complexes.
Alors, par exemple, dans le binôme...
Bah, Yves Montand.
Je voulais vous l'entendre dire.
J'ai eu plus de mal. Parce que dans cette histoire, puisque je raconte ce qui s'est passé en 1960 au Beverly Hills Hotel à Hollywood, c'est-à-dire Montand arrive avec Signoret, Simone Signoret, sa femme, ils ont 40 ans, ils sont beaux, ils sont en pleine ascension. Elle va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice en face d'Elizabeth Taylor et d'Audrey Byrne. Lui, il va tourner avec Marilyn Monroe, un film de George Cukor. Donc, ils sont en phase ascensionnelle, leur amour est au plus haut. Et juste au bungalow d'à côté, il y a un couple en décomposition, c'est Arthur Miller et Marilyn Monroe. Et Montand, il va traverser cette histoire en prenant du plaisir. Il va tromper donc Simone Signoret avec Marilyn Monroe, puis après il va retourner chez Simone.
Comme si de rien n'était.
Comme si de rien n'était. Et les deux femmes vont être détruites par ce moment-là, puisque c'est le début de la chute des deux côtés. La chute de Marilyn Monroe, ça va être une instabilité affective de plus en plus grande. Et puis Simone Signoret va revivre avec Montand, mais va se fermer à Montand et va sombrer dans la boisson. Et lui, il passe au milieu de tout ça, propre, allègre, joyeux, etc.
Conscience tranquille.
Il dit que c'était impossible de toute façon de résister à Marilyn Monroe et qu'au fond elle devrait être contente, c'est un diplôme d'être trompée par la que son mari la trompe avec la plus belle femme du monde. Et parce que alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage et ça c'était l'intérêt de rencontrer son petit-fils Benjamin Castaldi.
Parce que c'est une commande.
Non, c'est une proposition.
Ouais.
Oh non, personne. Je refuse toute commande.
Alors, je change de mot immédiatement. Une proposition, mais une idée qui venait de son petit-fils.
Oui, Benjamin Castaldi, un jour, est venu me voir. Il a fait mon siège pendant 6 mois. Il me voulait vraiment. Et puis, il m'a proposé de raconter cette histoire. Et moi, tous les jours, il y a des gens qui m'abordent en me disant « Vous devriez raconter cette histoire, ça ferait une pièce ou un roman. » Donc, en fait, je ferme souvent mes oreilles. Et là, j'étais très embêté parce que quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit « Aïe, c'est une bonne histoire, ça. Mmh. » Pourquoi ? Parce que c'est une histoire ordinaire avec des gens extraordinaires. C'est une histoire de trahison, d'adultère, d'amitié bafouée, de légèreté, de douleur. C'est ce qui nous arrive à tous. Mais avec des personnages énormes que sont Marilyn Monroe, Simone Signoret, Yves Montand, Arthur Miller. Et donc, oui, j'ai plongé dans cette histoire. Et alors, l'intérêt, c'est que Benjamin Castaldi, lisant la première version de la pièce, l'adorant, mais il vient chez moi, il me dit « Tu n'aimes pas mon grand-père ?» Yves Montand. J'ai dit « Non, pas du tout. » Il me dit « Le problème, c'est que ça se voit. » J'ai dit « Oui, ça, c'est un problème. » Parce que quand même, ces deux femmes se battent pour lui. Pour lui. Et donc, il a fait une chose magique. J'ai un cinéma dans mon grenier et on a passé plusieurs jours à regarder les grands films de Montand, donc les films de Claude Sautet, etc.
Et Saint-François Paul et les autres.
Voilà, César et Rosalie. Et il arrêtait l'image en me disant, tu vois, ça, Jean-Loup Dabadi, qui avait fait le scénario, ça, il l'a pris à mon grand-père. Et il me montrait comment on pouvait aimer Yves Montand. Et après, j'ai réécrit ma pièce en faisant un personnage aimable.
Mais c'est quand même extraordinaire parce qu'on a commencé parlant de ces personnages que vous avez investis.
Oui.
En se disant que vous aviez trouvé en vous de l'empathie pour Hitler. Et, on parle de...
Oui, mais être empathique ne veut pas dire approuver, hein.
Loin s'en faut, voilà. Loin s'en faut, évidemment. Je pense que ceux qui nous écoutent comprendront. Mais que devant ce drame plus ordinaire, oui. Celui de l'amour, avec au cœur Montand, ça a été peut-être plus difficile de le racheter à vos yeux.
Oui, le beau salaud n'est pas quelque chose que j'appréhende facilement, je ne sais pas pourquoi. Je suis très attentif aux autres, moi, dans ma vie affective. Donc, j'ai beaucoup de mal à en face des brutes, comme ça.
Alors, puisque vous soulevez l'affaire, je me suis vraiment posé la question. En préparant cet entretien, quand on est à ce point investi dans une œuvre comme vous, travaillant presque tout le temps, absorbé par ce que vous créez, est-ce qu'il reste beaucoup d'amour pour les autres?
C'est mon grand souci dans la vie, ça. J'ai la chance de vivre une grande histoire d'amour, mais je me demande toujours si je suis assez présent. Je me demande toujours si j'aime assez, si j'aime bien, si je le montre assez, etc. Alors, je crois comprendre que oui, mais moi, je n'en suis pas persuadé. Mais en même temps, pour m'aimer, il faut m'aimer comme je suis. C'est-à-dire dévoué à ma passion. De l'écriture. Et autrement, je ne suis pas fréquentable.
Et c'est non négociable.
Non négociable, bien sûr. Non négociable. Mais je suis un vrai amoureux, hein, je vous rassure.
Je ne suis pas inquiet, puis ce n'était pas accusatoire non plus, mais quand on est dévoré comme ça par cette envie de produire, depuis toujours, c'est beaucoup d'énergie.
Oui, oui. C'est énormément d'énergie, bien sûr. Mais je pense que même quand on n'est pas dévoré par quelque chose et qu'on a une vie peut-être plus paisible ou peut-être plus équilibrée, je n'en sais rien, je pense qu'on se pose quand même cette même question. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime assez? Est-ce que je le montre? La question ne m'est pas réservée, rassurez-moi.
Elle n'est certainement pas réservée qu'à vous, mais je pensais à Claudel que vous avez beaucoup aimé lire.
Oui.
Et qui disait « Il faut consentir
à aimer ».
À aimer.
Ça, c'est une des plus belles paroles sur l'amour que j'ai jamais entendues.
On peut penser aimer, mais consentir à aimer...
Décider que l'autre est plus important que soi, tout à fait.
Que la part de l'autre.
Oui, et puis consentir qu'on ne peut pas concevoir son présent et son avenir sans l'autre. Ça, moi, j'ai consenti à ça.
Consentir est un... beau mot ici.
Oui, parce qu'il montre que c'est quand même un effort.
Et il faut se surmonter soi-même.
C'est l'abandon d'une certaine indépendance. Moi, je vois dans la génération des gens qui ont 20-30 ans, ils sont beaucoup plus indépendants que moi, je l'étais dans ma jeunesse. Mais du coup, ils s'engagent beaucoup plus difficilement.
Avantage ou inconvénient?
Ben, je ne sais pas. Mais ben, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est bien cette indépendance, cette autonomie. C'est une force. Mais en même temps, cette difficulté à s'engager à cause de cette indépendance et cette autonomie, c'est peut-être la perte de moments exquis et d'une vie tout à fait différente. Je ne juge pas, je remarque.
Alors, si on parle de travail et de l'abondance de celui-ci dans votre vie, il y a un chantier entre tous qui est peut-être le plus important. C'est ce paradis perdu, ce projet du paradis perdu, donc l'histoire de l'humanité en 8 tomes. Mm. Le plan était donc écrit avant même que la oui. première ligne soit commise?
Oui, bien sûr.
J'ai conçu... Bien sûr, dit-il.
Ah oui, mais j'y serais pas allé autrement.
Mais vous êtes comme le créateur. Est-ce que, d'ailleurs, le dimanche, vous vous reposez?
Non. Vous voyez, pire que le créateur.
Ou avec plus d'ambition, peut-être.
Moins de temps.
Vous avez
j'ai pas l'éternité devant moi.
C'est vrai. D'ailleurs, vous avez un rapport très sportif autant.
Oui. Oui, oui.
Ça c'est... me plaît, ça, beaucoup.
Oui, c'est un cadeau de mes parents. Mes parents étaient deux grands sportifs. Maman étant championne de France de course, avec un record qui a mis 20 ans à être battu, pour vous dire le niveau. Et puis, mon père, champion universitaire de boxe. Donc, des sportifs. Et ils m'ont appris que le temps n'était pas un ennemi, mais que le temps pouvait être un ami. C'est-à-dire que, qu'est-ce que fait un sportif? Il s'entraîne mm-hmm. pour... dépasser ses limites, développer ses capacités, maximaliser ce qui est en germe en lui. Et donc, il fait du temps son allié et son ami. Et alors ça, j'ai fait toute ma vie en pensant ça. Et là, vous évoquez le projet de Paradis perdu, donc le premier tome de la traversée des temps.
Mais comme un artisan, j'allais dire, oui. après 5000 heures, 10000 heures, 15000 heures, devient non pas quelqu'un à qui on a enlevé du temps, mais qui s'est bonifié.
Oui.
Au contact de sa pratique.
C'est ça, le temps fait fructifier, tout à fait. Donc, c'est un rapport positif au temps. Mmh. Et puis le temps, c'est aussi mon pouvoir de faire. Je ne vois pas le temps comme quelque chose que je...
Qu'on vous enlève.
Qu'on m'enlève ou que je prends dans la figure. C'est mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de faire. Donc le temps, je me déploie dans le temps. Le temps me permet de me déployer. Donc j'ai une conception positive du temps. Je ne dis pas de temps en temps que je n'ai pas le sentiment que le temps passe trop vite et sans moi, quand même. Mais globalement, j'ai cette perception positive.
Donc, il y avait un moment optimal pour s'attaquer à cette somme?
Oui. C'est une idée, la traversée des temps, ce roman qui raconterait de façon romanesque les grands moments de l'humanité, les moments où l'humanité s'invente et où fait des choix ou subit des circonstances qui l'amènent à l'humanité d'aujourd'hui. Cette idée de roman, je l'ai eue quand j'avais 25 ans. J'étais un jeune assistant à l'université de Besançon. Je me souviens, j'étais dans un hôtel un peu minable, complètement pourri, puisque j'allais 2 soirs par semaine faire mes cours à Besançon. Et j'ai été traversé par cette idée, par ce personnage qui m'est apparu très nettement. Et alors, j'étais capable d'avoir l'idée à 25 ans, mais absolument pas de réaliser cette idée. Et cette idée est devenue un programme de vie, un programme existentiel, intellectuel. Je me suis dit, il faut qu'un jour, je sois capable d'écrire ce roman-là.
On va continuer sur le roman, mais vous m'amenez à une question. En fait, je vais monter au filet sur celle-là parce que c'est un peu comme Hitler. S'il avait fallu que vous ne soyez que prof de philo...
Non, c'était impossible.
Qu'est-ce qu'aurait été la vie sans cette autre part qui est celle de la création?
Ah non, c'est impossible.
J'aime beaucoup, c'est catégorique.
Mais c'est catégorique, mais c'est-à-dire que j'ai pris ce métier-là parce qu'il allait me permettre de créer. Je ne pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec...
C'était un encas, quoi.
Avec son art, avec l'écriture, je ne pensais pas. Et d'ailleurs, je ne le conseille à personne. Quand je vois des gens qui disent « j'abandonne tout pour écrire », je leur dis « non, s'il vous plaît, non ». Écrivez à heure perdue, à heure gagnée, à heure conquise.
Et donnez-vous les moyens de continuer longtemps.
Et donnez-vous les moyens de continuer longtemps. Autrement, vous allez vous rendre dépendant du succès. Et vous allez surtout rechercher le succès. Moi, le succès, c'est un truc qui m'est tombé dessus plusieurs fois. Mais ça n'a jamais été mon but. Mon but, c'était vraiment de faire ce que j'avais à faire.
À aucun moment, un jeune homme, par exemple, qui serait un peu compétitif, qui dirait « ça sera un jour mon tour, je connaîtrai le succès », à aucun moment... ce personnage-là n'a existé en vous?
c'était pas agressif du tout. C'était, je me suis dit, bon ouais, un jour j'aurai le succès. C'était.
Bon ouais.
Oui.
25 millions de livres plus tard, il dit, bah oui.
Bah là, j'avais raison. Non, mais j'ai jamais été en compétition avec les autres, mais toujours en compétition avec moi-même.
C'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, que vous êtes plus compétitif que vous ne le pensez.
Oui, c'est vrai, tous mes proches me le répètent, mais le jour où ils ont introduit cette nuance en me disant « tu n'es pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec toi », j'ai dit « ah oui, là, vous avez raison ». Parce que moi, je ne suis pas envieux, je serais un peu d'abord un peu idiot d'être envieux, parce que je suis bien gâté en termes de réussite et de reconnaissance, et ça ne me gêne pas que quelqu'un ait plus que moi. De toute façon, on est toujours le pauvre ou le riche de quelqu'un. Donc, je sais pas, mais par rapport à moi, oui, je suis compétitif.
Donc, il était hors de question que le prof de philo, toute sa vie durant, reste prof de philo. Il fallait écrire.
Oui.
Et à 25 ans, vous avez cependant la conscience que c'est peut-être trop tôt.
Oui.
Pour le projet.
Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais compris assez vite que j'étais extrêmement doué. Je le dis ça comme on dit qu'on peut être doué pour la course ou pour le saut en hauteur. Hein. Je veux dire, c'est pas un compliment que je me fais. Je veux dire, moi déjà à 17 ans, j'étais reçu par le président de la République comme le meilleur élève de France en composition française. J'avais été reçu par Giscard d'Estaing à l'Élysée. Donc, je savais que j'étais doué. Je veux dire, tout le monde, on me l'avait toujours dit pour écrire. Je veux dire.
Mais ça change quelque chose
de
d'être si tôt conscient de
d'être
de
doué. Ce... Oui, parce que je me rendais compte que j'étais doué, mais que j'avais rien à dire.
Ah, l'angoisse.
À 16 ans, j'ai fait ma première pièce, elle était très drôle. J'ai écrit la deuxième. Et malheureusement, moi, à côté, je lisais les grands auteurs. Et je me disais, oh là là, c'est pas ça, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut grandir, il faut penser, il faut vivre, il faut éprouver des émotions. Et le jour où tu seras un homme, tu auras peut-être quelque chose à écrire. Parce que moi, ce qui me fascine quand les gens écrivent jeunes, c'est pas qu'ils écrivent jeunes. Moi, à 16 ans, j'écrivais très, 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 très bien. C'est qu'ils aient quelque chose à dire. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Moi, j'ai mis du temps à avoir quelque chose à dire.
Parce qu'il faut avoir vécu un peu.
Exactement.
Je vais prendre un risque. C'est de revenir sur une conversation qu'on a déjà eue et qui est directement liée à cette agilité intellectuelle qui était la vôtre. Alors donc, on était à Bruxelles, première incarnation de Contact. Et vous m'aviez confié, je ne pense pas que c'était tellement intime, mais d'avoir jamais été capable de réconcilier le corps que vous aviez avec l'esprit agile que vous aviez. Mmh. Me disant, j'ai jamais compris, d'autant que vous avez des parents sportifs, et ce n'est évidemment pas un jugement sur le corps que vous avez, mais cette espèce de décalage entre cet esprit vif, habile, et qui aurait dû aller avec un autre corps. Mmh. Alors, je reviens à cet étudiant auréolé de 17 ans reçu par le président de la République. Est-ce qu'on fait la paix avec son corps parce que notre esprit compense?
En fait, je vais vous dire, j'ai fini par comprendre que mon corps ne me trahissait pas tant que ça, parce qu'il disait quelque chose de moi dont je n'étais pas conscient. C'est vrai que moi, j'ai l'esprit hyper rapide et j'ai un corps, entre guillemets, lent. J'ai l'esprit vif et j'ai le corps massif. Et en fait, mon corps dit quelque chose de moi qui est vrai. C'est quand même la sérénité et la tranquillité et peut-être un peu la force. Et j'ai fini par comprendre effectivement que quand même j'avais de la force, y compris dans ma vie, dans la conduite de ma vie, et que ce qui me permettait de faire tant de choses, c'est que je suis toujours serein. Et que, bon, pas aujourd'hui, j'ai une première. Mais bon, ça va, j'en ai pas beaucoup dans l'année. Et voilà, et c'est ce qui frappe souvent les gens qui me connaissent, c'est travailler autant en étant finalement tout le temps serein. Donc en fait, mon corps dit quelque chose quand même de juste. Oui, je me suis réconcilié avec l'image.
Est-ce que c'était trop intime comme question?
Non.
Et intime, certainement.
Certainement.
C'est un risque que je voulais prendre parce que je gardais, pour avoir moi-même lutté contre par moment mon corps, donc je gardais un souvenir de cette conversation et de cette incompréhension qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on est.
Oui.
Et à la vitesse avec laquelle, par contre, on peut anticiper les choses.
Est-ce que vous trouvez que vous vous ressemblez plus maintenant qu'avant?
Je me suis davantage forgé. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir eu un petit ascendant sur ce qui longtemps m'échappait. Mm-hmm. parfaitement réconciliés, j'en suis pas certain. Mais peut-être que c'est au dernier moment qu'on se réconcilie, j'en ai pas la moindre idée.
Oui, puis le faut-il.
Effectivement, le faut-il.
Si c'est un principe dynamique, le faut-il.
Alors donc, 25 ans, conscient du talent, mais pas toujours avec quelque chose à dire, et un projet qui est effectivement énorme, raconter tout.
Oui, enfin, raconter les bascules, quoi. Les bascules dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire technique, économique, médicale.
Mais c'est pas mal total, ça.
C'est très, oui, mais vous savez, j'ai l'esprit encyclopédique. Enfin, en tout cas, la curiosité encyclopédique. J'ai fait ma thèse sur Diderot, quand même le créateur de l'encyclopédie. Et qu'est-ce que j'appelle l'encyclopédisme ? C'est le savoir sans hiérarchie. Et j'ai toujours eu une passion pour ça. C'est aussi important de savoir comment on fait du pain que de connaître la métaphysique de Kant. Et pour moi, alors vraiment...
Et à tout prendre, je préfère encore savoir faire du pain, parce qu'on risque d'être plus souvent appelé à combler les besoins de l'estomac,
oui.
Et ensuite ceux de l'esprit peut-être.
C'est pas mal quand même la métaphysique de Kant.
Mais si je vous donne le choix... Jeûner...
Non, parce que c'est vital de manger... Mais c'est essentiel de réfléchir aussi, quand même. Et bien, avec les bons moyens.
On le fait suffisamment. J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que c'est... Non pas que c'est pas valorisé, mais que le bousculement, la rapidité... Je pourrais faire une banalité. Mais j'ai cette conversation souvent parce que moins on réfléchit, moins on a l'esprit critique, moins on est à même d'être de bons citoyens.
Oui, mais c'est pour ça que moi je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on devrait étudier, c'est la philosophie. C'est la discipline universelle. C'est celle qui vous donne les moyens de réfléchir par vous-même. C'est la boîte à outils. Quand les 5 années où j'ai enseigné la philosophie, je disais à mes étudiants, ne dites pas ce que je dis, ne pensez pas ce que je pense, mais faites ce que je fais, réfléchissez par vous-même. Alors voilà la boîte à outils. Et servez-vous-en. L'école de la liberté, c'est la possession de cette boîte à outils. C'est vraiment pour moi l'enseignement fondamental.
On est libre quand on est en mesure de penser.
Oui, alors que si on répète sans s'en rendre compte, si on n'interroge pas les présupposés de la pensée qu'on expose, si on ne donne pas sa valeur à la pensée adverse en réfléchissant, si on n'est pas capable d'argumenter son sentiment spontané ou son opinion spontanée, oui, on ne pense pas. Or,
à l'époque, pense pas tellement.
C'est-à-dire, je dirais qu'elle pense de moins en moins avec le développement de l'Internet, qui était censé supprimer tous les murs et qui en a monté plus que jamais. Les communautés, maintenant, par Internet, c'est une réunion de gens qui pensent exactement la même chose. Et les algèbres... Les algorithmes, pardon, la pensée algorithmique, les conforte là-dedans, c'est terrible.
Nous conforte.
Oui, c'est voilà, chacun est enfermé dans la cage de son zoo et non c'est mais de toute façon c'est toujours un combat de penser par soi-même et de penser. Je pense c'est pas une nouveauté.
Non. Peut-être que le contexte, lui, est un peu différent.
Oui, mais regardez, à d'autres époques, c'était les églises qui empêchaient les gens de penser. Aujourd'hui, moins. Mais c'est ce monde d'Internet qui empêche les gens de penser. Il y a toujours, faudra toujours penser contre.
Contre la technologie, ça devient de plus en plus difficile. Elle est puissante.
Oui, elle est puissante.
Alors revenons à tout ce qui a précédé cette technologie, mais qui aboutira inévitablement dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, votre personnage, Noah, il est transhumain. Il est immortel.
Oui. Oui.
Les tests transhumanistes pourraient très bien s'incarner dans le personnage.
Tout à fait.
Il vivra 10 000 ans, ce personnage.
Mais il ne faut surtout pas qu'il se fasse rattraper par les transhumanistes de la Silicon Valley.
Ça vous fait peur, ça?
Le transhumanisme? Alors, dans le transhumanisme qui soigne, qui répare, non, pas du tout, et j'applaudis. L'idée de transformer la condition humaine... m'effraye, oui, je pense que...
Mais on travaille là-dessus.
Et si jamais c'était possible, ça serait une humanité à deux vitesses, l'humanité des riches qui pourrait avoir accès à tout ça, et puis une sous-humanité d'être normaux, comme vous et moi. Donc j'y vois déjà de la guerre, de l'injustice, de l'inadmissible. Oui, je suis très inquiet.
Mais déjà, cette cassure, ce clivage est sur la pointe des pieds déjà amorcée.
Sans doute.
Ça vous fait peur, hein?
C'est un vieux rêve que poursuit l'humanité. D'ailleurs, dans la traversée des temps, dans le troisième tome qui se passe en Égypte, je mets en rapport la maison de l'éternité où on s'occupe de momifier les êtres pour leur permettre d'entrer dans l'au-delà, et dans la Silicon Valley, Eternity Labs, une clinique transhumaniste.
C'est même objectif, moyen différent.
Oui, on va travailler la matière dans les deux cas.
Oui.
Mais avec plus ou moins de science, évidemment. Mais le même objectif, c'est-à-dire en finir avec la condition humaine, en finir avec la finitude. Ça, c'est une folie.
Je crois que oui.
Pour moi, oui.
C'est aussi une occasion, si je lis bien ce que vous avez commencé à faire, parce qu'il reste encore quelques tomes à produire, de vous prononcer sur l'époque. C'est peut-être le plus politique des projets, d'une certaine façon.
Oui, oui, oui.
Est-ce que mon intuition est bonne?
Votre intuition est bonne. Je veux interroger le présent à partir du passé et interroger le passé à partir du présent.
Par exemple, vous avez déjà dit, le migrant, ce n'est pas l'autre, c'est moi hier, c'est moi demain. Par ses ancêtres ou par ses descendants, chacun de nous porte 1000 migrants en lui, alors que vous parliez du projet qui est le vôtre, parce qu'évidemment, nous avons migré dans l'histoire de l'humanité.
Bien sûr.
Et je sens que vous êtes par moments choqué.
Oui, bien sûr. Je suis toujours choqué et scandalisé par le mal que nous sommes capables de nous faire les uns aux autres. Mais quand ce mal, en plus, vient d'une ignorance crasse de ce que nous sommes, je veux dire, comment, alors qu'on est tous issus de migration depuis des millénaires, comment s'en prendre aux migrants comme migrants? Je veux dire, c'est complètement inhumain. Et moi, c'est tout ce qui crée de la déshumanisation dans notre monde me scandalise. J'aimerais qu'on ait une mémoire de nos gènes qui nous rappelle que nous sommes les survivants de multiples migrations. Et peut-être qu'on aurait un autre regard sur des êtres qui cherchent leur place sur Terre parce qu'ils fuient à la guerre, un désastre économique, la faim, la maladie, la servitude. Je suis très, très choqué.
Est-ce que c'est une vision, et ça ne se veut pas une provocation, idéaliste? Parce que la réalité, on le voit en France, on le voit ailleurs, c'est que les seuils de tolérance sont éventuellement atteints. Donc, quelle est la capacité qu'une société a à tendre la main?
Oui, vous dites la réalité, mais la réalité, c'est un discours qu'on tient sur le réel. On n'accède jamais à la réalité elle-même. Mais moi, je peux tout aussi bien vous dire, la réalité, c'est que vous, comme moi, et comme le mec le plus intolérant de la Terre, il est issu des migrations. Voilà, donc, de quelle réalité parle-t-on? Et c'est pour ça que je crois à l'importance de la connaissance et du savoir. Il faut rappeler aux gens qu'ils ne sont pas au début de leur propre histoire, mais qu'ils sont eux-mêmes issus
d'une
histoire antérieure. Et qu'il faut qu'ils aient, pas le poids de cette histoire, mais la conscience de cette histoire pour peut-être agir différemment.
Alors, comment on compose, puis c'est des questions qui sont infinies, mais comment on compose avec la peur, l'anxiété? J'ai l'impression que bien des gens, souvent, sont montrés du doigt parce qu'ils seraient racistes. Or, ils sont surtout inquiets, apeurés.
Oui, complètement.
Ça peut être d'ailleurs instrumentalisé, tout ça. Mais comment rassurer? Et est-ce qu'il y a des solutions politiques? La littérature peut nous proposer des chemins, mais c'est de la littérature.
Non, mais dans le concret, tout ça est extrêmement difficile, bien évidemment. Mais enfin, qu'est-ce qu'on appelle le concret? C'est toujours ce que je suis en train de dire. Là, ce qu'on croit être la réalité n'est qu'un discours qu'on produit sur ce qui nous échappe.
Parce qu'on est des êtres narratifs.
Mais complètement. La réalité ne nous arrive pas comme elle est, toute nue. Elle est toujours habillée d'idéologie, de pensée, de valeurs.
On est le seul animal, d'ailleurs.
On est un animal fictionnel. Voilà. Et alors, c'est pour ça que je crois aux bonnes fictions et aux mauvaises fictions.
On peut tordre le cou aux mauvaises fictions avec des bonnes fictions?
J'espère. Pour moi, le travail de...
Vous faites donc de la propagande positive?
Propagande, je déteste.
C'est une blagounette.
Ce mot, voilà. Non. Prise de conscience. Voilà. Prenons conscience de notre histoire, prenons conscience de ce dont nous sommes faits, prenons conscience des impensés qui peuvent provoquer certaines réactions. C'est vous savez, il y a des gens qui vont être racistes à table, et puis tout d'un coup ils sont devant un enfant qui pleure, ils sont plus du tout racistes, parce que tout d'un coup un enfant qui pleure, ça sort de l'ordre du discours. Il y a un rapport du regard à regard qui fait que l'horrible raciste est tout d'un coup un homme plein de bienveillance.
Ni plus si horrible que ça.
Voilà, parce que tout d'un coup, il a oublié son discours. Il a oublié... Puis alors, comme il y a des politiques qui travaillent, qui remuent la merde mentale pour avoir des électeurs, etc. On est entré dans une ère de démagogie, enfin, en tout cas en Europe, je ne sais pas au Québec, mais dans une ère de démagogie terrible.
Alors, quand mon camarade Onfray parle de décadence... Ou que le président Macron parle de décivilisation. Je vous vois déjà faire la grimace, mais...
Oui.
Vous y croyez pas?
C'est des vues de l'esprit, c'est...
Ce sont des vues de l'esprit, vraiment?
Oh, écoutez, on n'a jamais vécu aussi longtemps qu'à notre époque.
Clairement riche aussi.
Exactement. On n'a jamais autant évité la douleur physique qu'à notre époque. On n'a jamais pu voyager aussi facilement et avec tant de sécurité qu'à notre époque. On n'a jamais eu l'accès aux connaissances et à la culture que notre époque. Alors décadence, non, franchement, faut pas brandir des mots comme ça trop vite.
Alors, je vous renvoie à quelque chose que vous avez écrit, qui nourrira notre conversation. Que l'existence et le monde cessent d'être un mystère pour une partie de nos contemporains est une grande perte. C'est vous qui avez dit ça. Mmh. Mystère d'être, mystère de disparaître. Aplatir ce mystère, c'est s'amputer. Nous sommes des amputés.
Oui.
Spirituel.
Oui.
Je reviens à l'idée de la décadence, c'est-à-dire...
Où on revient, puisque vous parliez de Michel Onfray, on revient au matérialisme. Une vision purement matérialiste du monde, effectivement, qui exclut la transcendance, nous ampute, pour moi, d'une des dimensions de l'animal mystérieux que nous sommes.
Et fait de nous des choses banales.
On est dû à un entêtement des molécules. À une spécificité atomique, on est réductible à la matière. Moi je ne pense pas ça. Je suis pas certain d'avoir raison, mais Michel Onfray, j'espère aussi, n'est pas certain d'avoir raison. Parce que être matérialiste ou ne pas être matérialiste, c'est de toute façon une prise de position. Et voilà. Et cette fermeture à la transcendance, pour moi, Et le propre de notre époque. Mais pourquoi? Parce que jamais le monde matériel n'a été aussi triomphant. J'évoquais les progrès de la technologie, de la médecine, etc. Je veux dire, le travail sur la matière a permis à nos vies de changer. Donc, il y a un triomphe.
Oui, forcément. C'est quasi prométhéen. On est allé chercher le feu très loin,
mais pensez qu'il n'y a que ça. C'est faire un saut.
Votre parcours spirituel, parce que vous en parlez beaucoup, de ce pèlerinage à Jérusalem, mm-hmm. de cette nuit de feu, et je ne veux pas revenir sur des sentiers que vous avez beaucoup publiquement parcourus, mais il me semble ajouter une couche à l'édifice. Ça vous module profondément.
Ah oui.
L'être cartésien, que vous étiez dès le départ, accepte qu'il y a quelque chose d'insaisissable.
Oui. Je ne sais rien de plus depuis que je crois, mais j'habite l'ignorance de façon différente. Lorsque j'étais athée, j'habitais l'ignorance avec angoisse. Quand je ne comprenais pas, j'accusais le monde de ses limites. Aujourd'hui, quand je ne comprends pas, je m'accuse moi de mes limites et j'habite l'ignorance avec confiance. Je pense que le monde n'est pas absurde, mais mystérieux. Mmh. Que l'existence n'est pas absurde, un entêtement des molécules, comme disait Diderot, mais mystérieuse. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de sens. Et pour moi, c'est l'ouverture à la transcendance, la saisie de cette promesse de sens. Et j'ose parler de ces choses-là parce que je sais parfaitement ce qu'est l'athéisme, puisque je l'ai été jusqu'à 28 ans. Et je connais parfaitement la langue de l'athéisme ou la langue de la raison. La langue de la raison, elle vous fait ni croire ni ne pas croire, puisque Dieu est indécidable en termes rationnels.
Mais il faut croire.
Dieu se trouve pas au bout d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique ou sous la lentille d'un microscope ou d'un télescope. Dieu n'est pas un objet de connaissance. Donc la raison vous laisse orpheline.
Un acte de foi.
Voilà. C'est un acte de foi, ou alors qu'est-ce qui permet l'acte de foi ? Soit on saute, soit on vit comme moi des expériences qui tout d'un coup font arriver dans la sensibilité le corps, parce que l'esprit n'est pas qu'intellect, l'esprit est cœur, sensibilité, imagination, font arriver le vécu de la transcendance. Et à ce moment-là, croire n'est plus que consentir à la réalité de ce qu'on a vécu.
Ah oui.
Oui, c'est comme ça que je le pense.
Ça donne un sens à tout ce qui a précédé, dans le fond.
Oui, c'est la clé.
Alors, vous dites la religion sollicite notre liberté.
Ah oui.
On pourrait penser, pour certains, que c'est l'inverse.
Exactement.
C'est-à-dire que la religion est cette espèce de corset et qui contraint notre liberté. Vous dites non.
Non, pas du tout. Parce qu'aucune religion n'est vraie, aucune religion n'est fausse. Ce que je veux dire, c'est que 2 et 2 sont 4, vous n'êtes pas libre de dire oui ou non. Donc, la raison n'a rien à faire de votre acquiescement et de votre liberté. La religion, si, puisqu'elle vous propose quelque chose qui n'est pas décidable en termes rationnels, qui n'est pas une évidence rationnelle. Donc, en fait, la religion sollicite votre liberté. Et c'est à vous de dire oui ou de dire non, ou de dire oui comme ceci, oui ou non comme cela.
Donc, est-ce qu'on serait religieusement mieux engagé à partir du moment où ce n'est plus une contrainte comme longtemps ce le fut?
Mais exactement. Puis là, vous, en plus au Québec, l'histoire de l'Église est particulièrement honteuse.
Pas qu'au Québec. Si on était en Irlande, je vous dirais qu'il
pareil,
y a des gens pour nous dire que c'était...
Vous viendriez d'Irlande, je vous dirais la même chose, je connais. Mais... Mais c'est-à-dire que l'Église n'a pas été à la hauteur de la religion qu'elle promeut. L'Église n'a pas été à la hauteur des évangiles. C'est tout à fait clair. D'ailleurs, c'est un peu le discours aujourd'hui du pape François, qui est tellement différent des autres pour ça. Il veut rendre l'Église aux évangiles et les évangiles à l'Église. Parce que l'Église s'est conduite de manière honteuse. Toutes les églises ont fait beaucoup de mal à la vraie foi.
Parce que là où il y a de l'homme...
Il y a de l'hommerie. Saint François de Sales.
Oui.
Bien sûr. Donc...
Mais est-ce qu'on est un peu cucu la praline quand on... Attendez la question. Quand on parle d'amour. Parce que c'est un peu ça la parole. Et je me rends compte, dans mon parcours, qui n'était peut-être pas athée mais agnostique, que plus j'avance, plus je suis déstabilisé justement par cette idée.
Oui.
Que les évangiles et l'amour, c'est colossal.
C'est la proposition la plus folle qui soit.
Expliquez, professeur.
Eh bien, il y a toujours une valeur qui est mise en avant dans chaque religion. Mmh. Par exemple, dans le bouddhisme, c'est la compassion. Mmh. C'est très théorisable et on peut rationnellement appuyer avec des arguments. Le judaïsme, c'est le respect.
Tout à fait.
Alors, c'est pareil. Philosophiquement, on peut très très bien appuyer ça avec des... Dans l'islam, c'est l'obéissance. Eh ben, on peut aussi très très bien justifier que pour qu'il y ait groupe humain et que pour qu'il y ait une cohésion, il faut de l'obéissance. Le christianisme, c'est quoi ? L'amour. Indéfendable. Aimer votre ennemi ? Aimer l'assassin de vos parents ? Aimer l'assassin de vos enfants ? Enfin, c'est juste impossible. Et c'est ça la proposition chrétienne. C'est la plus folle, la plus démente qui ait jamais été portée. Et c'est pour ça qu'elle me fascine. Elle dit remplacer la crainte, la peur et l'intérêt, c'est-à-dire ce qui régit vos relations aux autres, remplacer la peur, la crainte, l'intérêt par de l'amour. C'est impossible, et parce que c'est impossible, c'est beau et c'est un chemin.
Ça revient à Claudel, consentir
oui.
à l'amour.
Bien sûr, dire oui. C'est beaucoup plus facile de dire non. Puis notre époque privilégie le non. On a l'air intelligent quand on dit non.
Toujours d'ailleurs.
Toujours.
Si dans une réunion on veut se faire remarquer, on dit non.
On dit non.
On doute.
Voilà. Mais dire oui, ouvrir les bras, épouser, dire oui, ça c'est...
Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, c'est peut-être l'Église, l'institution, mais cette détestation, parce qu'il y a un peu de ça, de notre passé et de cette religion qui est la nôtre pour ceux qui sont de ce patrimoine
bien sûr.
Chrétien.
Quand on déteste ce qu'a fait l'Église catholique, on le fait en projetant dessus des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire, on dit, bah, finalement, le christianisme n'a pas été à la hauteur du christianisme. Donc, on n'est pas hors christianisme quand on critique l'Église. On est au contraire au cœur même du christianisme.
On le juge à partir même de ses canons.
Et au nom, voilà, de ses canons. Et au nom de ce christianisme, on dit vraiment, vous êtes en dessous de la tâche. Donc, ce n'est pas le christianisme qui est en question, c'est ce qu'en ont fait les hommes et les différentes églises.
Plus d'une fois dans vos conversations, on vous ramène cette citation apparemment apocryphe de Malraux qui disait « Ce XXIe siècle, il sera spirituel ou il ne sera pas religieux. » C'est une impasse si il n'y a plus ce mystère.
Ah oui. Non, mais c'est surtout, c'est la prison. La prison matérielle. Alors voilà, l'horizon de la transcendance est totalement enlevé. En fait, de la matière qui refait de la matière, sans idéal, sans valeur, sans appétit du beau, sans volonté de transmettre, sans amour de l'autre, c'est pas possible.
Vous balbutiez, c'est donc dire qu'effectivement, on est au cœur des vrais enjeux. Il n'y a même plus de mots pour décrire ce que ça signifierait potentiellement.
Mais je ne comprends même pas qu'on puisse articuler... certains le font, et brillamment en plus. Mais je ne comprends même pas qu'on puisse articuler cette vision du monde-là.
Qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme rationnel que vous êtes, et qui ne cherche pas l'attention, qui ne cherche pas l'effet, à Jérusalem, que vous n'auriez pas pu... imaginez. Parce que quand on vous entend raconter, on se dit, bah, ça fait une très belle pièce ou ça fait un très beau livre. Non, mais il y a quelque chose de mystérieux. Mais est-ce qu'il a été vraiment, dans sa chair, bouleversé comme il le dit?
Mais justement, dans ma chair.
Ah, je sais, pour vous, c'est très incarné.
Mais mon christianisme était intellectuel et spirituel avant que je ne parte en Terre Sainte. Et je suis parti... très dubitatif, en me disant, qu'est-ce que ça va m'apporter? Franchement, je ne vois pas pourquoi mes pieds vont faire grandir ma foi. Quoi.
Alors, pourquoi le faire?
Parce que je n'étais pas certain que ça allait ne pas m'apporter quelque chose, parce que je suis une curiosité sur pattes. Je l'ai toujours été.
Et si le pape ne vous avait pas mis au défi?
Alors, attendez, soyons clairs. C'est vrai que tout ça part d'un appel du Vatican, qui me dit nous vous aimons beaucoup, nous aimons votre foi et votre liberté pour la dire, et nous rêvons de vous emmener en Terre Sainte. Mais bien sûr, surtout que le pape il est jésuite.
Voilà,
vous emmenez en Terre Sainte et que vous reveniez avec le journal d'un pèlerin d'aujourd'hui dans la Terre Sainte d'aujourd'hui. Attention, j'ai accepté le voyage, j'ai refusé la commande, j'ai dit non, je ferai un livre que s'il y a matière à faire un livre. Et le voyage, j'ai refusé qu'on le finance, je l'ai financé moi-même. Je voulais rester libre. Par contre, c'est vrai que le Vatican m'ouvrait des portes pour faire certaines rencontres, etc., etc. Mais je suis parti en me disant, bon, d'accord, j'ai dit oui, parce que j'avais ressenti comme un appel. Mais qu'est-ce que, en face de quoi je vais être? Et j'ai eu une grande surprise, effectivement. C'est-à-dire, quand j'étais... au Saint-Sépulcre, sur le Golgotha, le mont du crâne, là où Pilate envoyait les condamnés pour leur supplice ou leur exécution, donc à l'endroit où est censé être mort...
censé le bon mot.
Ah oui.
Parce qu'il y a un travail de propagande dans ce cas-ci la mère de Constantin.
Oui.
Qui
faisait de l'archéologie mystique.
Exactement, et qui a créé tout un univers...
Oui.
Y compris les magasins de souvenirs.
Oui, oui.
Donc, est-ce qu'on est dans...
Mais ça, c'est l'apparence. Ça, c'est l'apparence. Donc, effectivement, j'entre au Saint-Sépulcre et j'entre effectivement dans une espèce de pas d'Euro Disney, d'Israélo Disney, je sais pas quoi, enfin, un parc des loisirs à Bondieuserie, avec des gens qui ont des comportements que je comprends pas. Ils embrassent la pierre, ils allument des bougies, ils chantent des trucs. Et je me dissocie totalement de ça. Je suis très voltairien. Et je me dis, c'est vraiment, c'est pas possible. Mais je suis exténué et je m'agrège à une file. Et puis je regarde ce qui se passe, je regarde la gymnastique du pèlerin. Alors on s'agenouille là, et puis on reste 15 secondes, on fait un signe de croix et on s'en va. Je dis bon, je vais le faire.
Ça a un sens tout ça finalement ?
Non, à ce moment-là, aucun. La mécanique. Et puis quand c'est mon tour, je sens une odeur de corps, je sens... une chaleur comme quand on s'approche intimement d'un corps et je sens un regard sur moi. Alors évidemment rationnel, je cherche l'origine de cette odeur, de cette chaleur autour de moi en me disant bah c'est quand même bizarre. Et puis je ne trouve pas. Et je ne trouve pas du tout.
Est-ce qu'on peut sécréter ça pour soi-même, c'est-à-dire qu'on veut tellement.
Mais je voulais rien du tout. Mais je vous assure que je ne voulais rien du tout. Je n'ai même pas imaginé...
Je suis le Judas en train de tâter de la plaie.
Mais vous avez raison.
Mais ça m'intéresse souverainement.
Mais il n'y a pas plus... Mais vous avez raison. Mais je n'ai jamais d'abord imaginé l'expérience que j'allais vivre. Imaginé. Et ensuite, donc même pas souhaité ou rêvé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça m'arrive dans un moment où je suis vraiment très voltairien, très critique, très cynique. Et ça me tombe dessus. Ça me traverse. Et je suis terrorisé. Parce que c'est violent. Et puis, très heureusement, l'espèce de capot, là, le moine qui fait circuler les gens, il me pousse.
Au prochain.
Voilà. Et je suis content qu'il me pousse. Parce que je comprends rien. Et après, je me réfugie derrière un pilastre. Et j'ai l'impression d'avoir subi quelque chose de violent.
Subi
et violent. C'est-à-dire, j'ai rien demandé et il s'est passé quelque chose. Et puis, je finis par comprendre, enfin plutôt, ça se transforme, boum, ça glisse immédiatement et je me rends compte qu'en fait, c'est une grâce. Que j'ai senti la présence d'un homme qui est mort il y a 2000 ans. Que je l'ai senti, mais senti avec mon nez.
C'est ça la grâce ?
Avec ma peau, oui, c'est le corps. C'est le corps qui comprend la chose que l'esprit ne peut pas comprendre, parce que c'est incompréhensible. Vous voyez ? C'est tout d'un coup le vécu du mystère. Et alors ça, j'étais obligé d'inventer les mots pour pouvoir le dire. Je ne savais pas avant de le vivre, vous voyez ce que... Non seulement je n'avais pas imaginé cette expérience, mais je n'avais même pas les mots pour le concevoir et me dire que finalement...
Il arrive qu'il n'y ait pas de mots pour décrire ce qu'on a senti ?
On est condamné à la poésie. On est condamné à la métaphore. Dès qu'on parle d'expérience mystique, les mots ont été inventés pour décrire le monde visible, pas le monde invisible.
Vous avez eu peur un instant que vous puissiez passer pour un hurluberlu ou pour un illuminé ?
Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire le livre au plus près de ce que j'ai vécu. Et personne ne m'a traité d'hurluberlu ou d'illuminé, surtout dans le pays de Voltaire. Donc c'est je pense que les gens après ils en pensent ce qu'ils en pensent mais ils croient totalement à ma sincérité.
Ce que vous avez vécu vous permet de mieux vivre le deuil ou non ?
Non.
Parce que vous l'avez confessé, vous avez été tenté par le suicide après la mort de votre mère. Puis je veux pas non plus revenir dans ces sentiers mais ce que vous sentez maintenant, est-ce que ça donne un sens à ce qui n'en a jamais, c'est-à-dire perdre les gens qu'on aime ?
Vous savez, quand quelqu'un s'en va, c'est pas le sens qui manque, c'est la personne. C'est le chagrin, il est là. Le chagrin, il est dans la perte. On ne se parlera plus jamais, enfin, dans ce monde-ci. On ne se touchera plus jamais, il n'y aura plus jamais ce regard sur moi, j'aurai plus jamais ce regard sur elle. Ça change rien. C'est une douleur infinie. J'étais pas en perte de sens. J'étais très malheureux. C'est pas pareil.
Non, c'est très concret.
Oui, c'est pas du tout pareil. Et les gens me disaient, mais de croire, ça te console pas ? Je dis non, mais de rien du tout.
Mais du tout. Et vous avez déjà pensé qu'un chagrin pourrait vous donner envie de mourir?
Ben non. Non. Mais là, il y avait une... J'étais dans ce moment du deuil où le monde est totalement vide. C'est-à-dire, vous ne voyez plus que l'absence de l'autre. Et puis maintenant, j'ai dépassé ce moment. Le monde est plein de tout ce que j'ai vécu. Mmh. Et donc, le passé est un millefeuille qui enrichit le monde. Par exemple, ma ville de Lyon, où je suis né, j'ai pas pu y aller pendant des mois parce que je ne voyais que l'absence de ma mère. Maintenant, j'y vais, et j'ai 1000 souvenirs qui viennent peupler, et donc la ville est redevenue pleine. Mais j'étais dans ce moment de l'intolérable absence.
À travers l'aventure de Jérusalem, ou cette nuit de feu dont vous avez beaucoup parlé, il y a le risque que l'on prend toujours lorsqu'on voyage.
Ah oui.
Lorsque l'on sort de...
Il faut.
J'allais dire sa zone de confort, mais je déteste cette expression. Il faut être très riche et bien pour vouloir risquer de sortir de sa zone de confort. Il y a bien des gens qui n'ont juste pas les moyens d'y penser oui. en ces termes-là. Mais le voyage, qu'il soit initiatique ou plus banal, il est important pour vous, le mouvement est important.
Moi, je dois l'essentiel de ma vie spirituelle au voyage. C'est-à-dire, c'était pas quitter le confort, c'était quitter les habitudes. Mmh. Rompre. En fait, il faut savoir rompre.
Les amarres.
Et c'est rompre avec ses proches, qu'on aime pourtant, rompre avec son cadre de vie. Moi, le mien, je l'apprécie. Rompre avec ses habitudes de pensée, de corps, etc. Et peut-être devenir un homme nouveau dans un autre monde. Et donc, pouvoir accueillir des événements nouveaux. Et peut-être surtout, redevenir fragile. Parce que je crois...
Redevenir fragile?
Oui.
Ça, c'est l'enfant?
Oui. Redevenir ouvert à des expériences auxquelles la vie, par ses habitudes et par son confort, nous a fermés. Oui. Je pense que c'est... Il faut retrouver une vulnérabilité. C'est par les failles que passe la lumière. Il faut retrouver cette vulnérabilité. Moi, voilà, quand j'étais juste simplement un homme avec une chemisette et un short au milieu du désert, sans rien avoir à boire et à manger pendant 32 heures, oui, j'étais de nouveau fragile. J'avais perdu la maîtrise de mes sentiments, de mes émotions et de mes pensées. Donc, il pouvait se passer quelque chose. En Israël, pèlerin parmi les pèlerins, couchant sur un lit 30 centimètres, dès que je me retournais, je me retrouvais par terre. Et étant avec des gens extrêmement pieux, pratiquants, moi qui ne le suis pas du tout, oui, j'étais de nouveau fragile. J'étais interrogé par chacun de leurs gestes et de leurs comportements. Ils ne me ressemblaient pas.
Vous les avez jugés à un moment donné, ces gens?
Non.
Jamais?
Ah non, 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 ça quand même, non. Je me sentais malheureux d'être aussi différent d'eux. Mmh. C'est plutôt comme ça, quand je suis avec des gens différents, c'est moi qui me sens coupable, je suis pas en train de les accuser, eux.
D'être différent.
Oui.
Alors, vous êtes un homme nouveau aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
Il n'y a pas eu d'hésitation. Oui, oui, oui.
Oui, oui. Accompli. Plus accompli, plus plein. Plus relié.
C'est un privilège.
Oui, c'est un cadeau énorme. C'est totalement privilège, oui, c'est-à-dire immérité. La grâce, ça n'a pas de logique.
Mais il y a la grâce du talent. On a tout à l'heure parlé de ça.
C'est pas logique non plus.
C'est pas logique non plus, et vous l'avez, oui. Clairement. Alors certains diront, ça me plaît pas ce qu'il fait, oui. Mais essentiellement, tout le monde s'entendra pour dire, vous avez eu cette grâce, ce talent. Alors de toutes les grâces, on pourra peut-être arrêter là-dessus. D'avoir ce talent qui vous a donné la vie que vous avez eue, ou de rencontrer ce mystère insondable.
C'est deux grâces extrêmement différentes. La grâce d'avoir du talent, c'est moi. La grâce de recevoir la foi, c'est plus que moi. La grâce d'avoir du talent, c'est ce qui me fait être ce que je suis. Et la grâce de recevoir la foi et la présence de Dieu, c'est ce qui me relie à beaucoup plus que ce que je suis.
On est condamné, selon vous, à croire?
Alors, J'aime pas le mot condamner, parce que
non, mais ça serait
on dirait qu'il y a un jugement, un verdict, et que ça peut être arbitraire.
Non, la question, alors je la pose différemment, est-ce que c'est une impasse si, alors croire, on pourra choisir ce à quoi on croit, mais accepter la part mystérieuse de l'aventure.
C'est si bon de l'accepter. C'est si bon de... C'est se donner beaucoup moins d'importance, c'est penser qu'on appartient à une totalité, c'est être relié, c'est être humble sans être humilié. Moi, j'aimerais être contagieux. J'aimerais pouvoir donner la foi aux autres. Je peux juste témoigner.
Il y a quelque chose qu'on a oublié de dire aujourd'hui, parce que je n'imaginais pas que la conversation irait là où elle est allée. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait utile d'ajouter? Inch'Allah, à la grâce de Dieu.
Non, j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent que je crois que la grâce se présente souvent, en fait, dans nos vies. Tout d'un coup, on est au milieu d'un paysage et on se sent pas étranger à cette nature, mais gratifié d'être là. On a parfois des émotions fondamentales en face des autres, en face de la nature, en face du cosmos. Et parce qu'on est dans un siècle purement matérialiste qui réduit tout, on met cette expérience dans sa poche et on décide de la négliger. Et je crois que il vaut mieux se construire sur des éblouissements que sur des effacements. Et voilà, je construis ma vie sur des éblouissements. L'éblouissement de la première fois au théâtre, l'éblouissement du premier grand roman que j'ai lu, l'éblouissement du désert, l'éblouissement de Jérusalem, l'éblouissement de certaines rencontres. Je suis fidèle à mes éblouissements.
Vous imaginiez, quand vous étiez gosse, que vous auriez cette vie?
Non. Non, non, elle est beaucoup plus intéressante que ce que je croyais.
Mais vous aviez un peu d'ambition, parce que vous rêviez d'être Edmond Rostand. Donc déjà, c'est pas mal.
Oui, oui, oui. Mais la vie est beaucoup plus intéressante que ce que je pensais.
Meilleure.
Ah oui, oui.
Vous vous couchez le soir en vous disant, c'est quand même pas mal.
Oui. Et je me réveille aussi comme ça.
Mais j'espère que ce soir, après la première de ce Bungalow 21, vous vous coucherez en vous disant, ça s'est bien passé.
Ouais, vous savez, j'avais rencontré une grande actrice qui était Danielle Darrieux, qui était une légende du cinéma et du théâtre français. Et elle a vécu jusqu'à 100 ans. Et un jour, elle a créé Oscar et la Dame Rose, un de mes textes. Et un jour, je lui ai dit, Danielle, qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Et elle m'a dit une phrase toute simple, mais d'une sagesse tellement grande. Elle m'a dit, c'est ouvrir les volets tous les matins et les refermer chaque soir.
Éric-Emmanuel Schmitt, en espérant que les volets soient bien ouverts ce soir pour cette première, merci.
Merci.
Je vous serre la main. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est terminé. Il y avait Marianne Grenon qui était à la recherche, comme toutes les semaines. Jeanne Croteau à la réalisation. Adrien Beccaria est ici pour l'enregistrement. Stéphane Bureau, microphone. À très bientôt. Éric-Emmanuel Schmitt, merci encore.